La quatrième et dernière partie du podcast consacré au percussionniste Marc Chantreau, le podcast de Backstage, le podcast. Comme vous avez pu le constater les jeudis précédents, et vous l'entendrez encore, il n'a pas sa langue dans sa poche, en toute humilité, hein, cela dit. Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils réalisent ces parfaitement chouettes podcasts qui nous font découvrir un vaste univers, celui des artistes, des artisans, des techniciens, les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscules, backstagelepodcast.com. Et jeudi prochain, surprise, une nouvelle rencontre avec un nouvel acteur ou une nouvelle actrice de la culture côté coulisses. Tout de suite, cette interview de Marc Chantreau par Margot Delpierre, mixée et montée par Thomas Langlin.
Vous avez l'air assez libre dans votre façon d'aborder les
moi,
choses.
Moi, vous savez, la fable de la fontaine, le loup et le chien, je l'aime bien celle-là. Hein. Vous la connaissez ?
C'est quoi la morale déjà ?
La morale, c'est le chien, il a un collier. Il mange effectivement, mais le loup, il n'a pas de collier. Ah, seulement quand il attrape quelque chose, c'est bon. Vous ne venez pas à réaliser là, elle est merveilleuse cette fable de la fontaine. On devrait les apprendre ça, le laboureur et ses enfants. C'est bien tout ça.
Oh, la fontaine, on apprenait encore, en tout cas, quand j'étais à l'école.
Oui, mais enfin maintenant... Oh, la fontaine, wow. S'il faut entendre Lucchini qui l'a fait en verlan, oui.
Je reviens aux séances de travail. J'imagine qu'il ne fallait pas se rater, puisque plus on y passait de temps, plus ça coûtait cher.
Ah bah, c'est-à-dire que là, il fallait être rapide. Hein. Et c'est-à-dire qu'il fallait assurer. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un critère de talent musicien de studio, mais c'est un critère de quelqu'un qui est quand même un peu sûr de lui, quand même. Parce que là, quand la lumière rouge, elle s'allume, faut pas dire je reviens la semaine prochaine. Hein. Là, on déchiffrait. Moi, je me souviens un jour, on avait fait pour Alain Barrière, qui était un homme charmant, qui est toujours d'ailleurs, parce qu'il est vivant. Il était délicieux, c'était vraiment un homme charmant. Et il était 4h25, presque le temps de s'arrêter. Et nous, on finissait tous, parce qu'on enchaînait une autre séance à 5h. Et il nous avait demandé de si on pouvait faire un morceau comme ça. On lui a dit, vas-y, il nous a passé la partition. On l'a même pas répété, on l'a enregistré direct. Et c'était « Tu t'en vas », qui a été un tube. Mais des anecdotes comme ça, il y en a eu pas mal, quoi. Fallait lire la musique et puis après la digérer très vite, quoi. Et moi j'en ai vu pas mal qui se sont fait balayer, quoi. Et puis à la pétoche quand ça commence à prendre. Un jour on était dans un studio, on enregistrait la musique qui avait été écrite par Jean-Claude Petit, Cyrano de Bergerac. Et il y avait un violoniste qui jouait, qui était un violoniste formidable, et puis il commençait à arriver, vous savez, la goutte d'eau. Et là ça n'allait pas. Et Jean-Claude Petit a été obligé de dire devant tout l'orchestre: Monsieur Machin va pas faire le solo, c'est un tel qui va faire le solo. Il faut dire que ça fait mal. Et ça, je veux pas le... Donc maintenant, quand on m'appelle, je dis, je ne sais plus lire la musique, ce qui est à moitié vrai. J'ai besoin de lunettes, alors c'est trop loin, trop petit. Je vois 6 lignes au lieu de 5, c'est gênant. Donc, quand on me dit, il n'y a pas de partition, tu joues ce que tu veux, là, je viens.
À quel moment vous vous tournez vers la pub et les musiques
la pub,
de film?
Je me tourne vers la pub. Quand on a fait notre groupe en 78, donc là, d'un seul coup, tout marche bien. Et puis, comme on a fait ça, il y a des gens qui faisaient de la musique de pub qui nous ont téléphoné. Une boîte qui s'appelait Macadam, que je connaissais, puisque j'allais souvent jouer en tant que musicien. On nous a demandé de faire une musique la première fois. Et je me souviens, c'était Fox, chez Fox, pas d'intox, Fox, PH. Bon, bref. Et puis, ça a marché. C'était Dominique Bouvard, qui est la fille de Philippe Bouvard, qui était charmante comme tout. On avait accroché avec elle. Et puis après, j'en ai fait beaucoup. Jusqu'en 83 à 2002. Et j'avais fait notamment Studio Line
de L'Oréal.
Je travaillais en binôme avec monsieur Pierre-Alain Dahan, avec qui on avait fait Voyage, notamment, qui est un batteur-musicien, ce qui est pas fréquent. Mais lui, il l'était. Et donc, on a fait ça ensemble. Malheureusement, Dieu l'a rappelé un peu trop tôt. On a eu le prix de la musique publicitaire pour l'ensemble de notre œuvre en 1992. Je vous signale, vous avez quand même un personnage, pas de l'ombre.
Ça vous a amusé ça, la musique publicitaire ?
Ah oui, c'était formidable. Surtout à l'époque, il y avait, excusez-moi de parler ça, mais je suis pas vénal, mais il y avait de l'argent, c'est-à-dire qu'il y avait, jusqu'au jour où Sapin, il nous a fait la loi, il nous a mis les cosses contrôleurs partout, alors qu'avant, il y avait une maquette, il y avait machin, il y avait 5-6 comédiens, enfin ouais, tout le monde était content. Alors c'est vrai que les achats d'espace, c'était un certain prix, ils revendaient un autre prix, mais ils faisaient 10%, tout le monde s'y retrouvait. Mais c'est comme ça. Et à l'époque, il y avait vraiment une part de création parce que c'était les créatifs qui tenaient ça. Nous, après, ça a été la fin puisque c'était les commerciaux qui tenaient. Alors, les commerciaux, c'est plus le même film. Un jour, on a entendu quand même une phrase qui était formidable. C'était un annonceur nous dit, voilà, on voudrait la musique genre le Miles Davis. On dit, bon, d'accord, Miles Davis, enfin bon. Mais il dit, mais le client a horreur de la trompette. Alors on lui a dit, il n'y a pas de problème, on va faire du Miles Davis sur la trompette. Et la dernière, une des dernières pubs qu'on a faites, on avait fait une musique, house music. Vachement difficile à faire, hein. Vous voyez, vous brûlez la machine, ça se fait tout seul. Et à l'époque, c'est en 2002, donc j'ai 55 ans. Je ne suis pas encore trop vieux. Et le réalisateur du film, celui qui nous avait commandé la vie, il écoute, il dit, ouais, super, c'est bien. Et là, il nous dit une phrase, il fait, ah, c'est pas mal pour des vieux. Et là, je me suis dit, Pierre Alain, il avait 4 ans de plus que moi. Je me suis dit, heureusement qu'on était assez malins pour vivre de nos rentes. Parce que là, s'il y a 55 ans, on est vieux. Vous voyez, bon, mais c'est comme ça, quoi. Et aujourd'hui, musicien, c'est smicard. C'est smicard. Ah ouais, vraiment, les musiciens, ils sont. C'est catastrophique, quoi. Mais enfin, c'est comme ça.
Et les musiques de films?
Alors, les musiques de films, j'ai fait, avec Pierre Alain, justement, on avait fait pour Le Commissaire Molin, on avait fait ça. On avait fait aussi pour le père de Mathieu Kassovitz, il était connu, mais le jour où son fils l'a dépassé, on a oublié le nom du père, le prénom du père, mais enfin bon, Monsieur Kassovitz, voilà. Un jour, on avait été présenté à Claude Zidi pour faire La Totale, et c'est un copain qui nous avait présenté, mais nous, on avait que des formats petits, on avait 30 secondes, quoi. Alors évidemment, Claude Zidi, il a dit, ouais, c'est bien, mais je dis, je comprends tout à fait. Puis vous savez, en 30 secondes, c'est beaucoup plus difficile de faire, parce qu'il faut être concis. Musique de film, c'est vraiment facile de faire une musique de film, enfin facile. Mais une fois que vous avez le thème, vous le développez. Enfin, dans la musique de film, il y a quand même des gens. Il y avait Michel Legrand, Vladimir Cosma, Jean-Claude Petit. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis, vous avez Morricone. Morricone, c'est... D'ailleurs, justement, à ce sujet-là, j'ai une anecdote. On était au Midem à Cannes. Moi, j'avais 20 ans, 22 ans. Et je m'attendais à voir un Italien arriver. Un Italien, genre Mario. Et là, je vois arriver un mec, c'était un curé. Il avait des petites lunettes. Et c'était avec le son, et pas avec l'image. Je voyais dire, c'est lui qui a fait ça, c'est pas possible. Enfin, voilà. Mais enfin, là, c'est hors norme, quand même. Là, parce que j'ai lu son bouquin, il a ramé quand même pas mal, hein, mais déjà d'en faire une, c'est pas évident. Mais enfin, voilà, la musique de film, non, j'en ai jamais fait, mais pas grave.
Bon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de regrets.
Oh, bah, j'ai aucun regret, bien évidemment.
Bien sûr. Je suis obligée de vous demander, parce que je suis une fille du Nord, vous êtes crédité sur Les Corons de Pierre Bachelet.
Oui, oui.
Vous avez travaillé sur Les Corons?
Ah, bah, j'ai joué, oui, avec Pierre Bachelet, j'ai joué beaucoup. J'ai même fait des orchestrations pour lui. Oui.
C'est mythique, ce morceau.
Ouais, ouais. J'ai fait des orchestrations pour lui au début, et Pierre, il était. il avait tendance à prendre les gens qui fassent pas mal de choses pour lui, quoi. Et j'avais l'habitude, en général, quand je faisais quelque chose, que ce soit bien ou mal, ou de qualité ou pas, mais on me remerciait. Et là, j'avais écrit quand même pas mal de musique, et c'est lui qu'on remerciait. Alors là, mais je l'aimais bien, hein, mais il avait raison. Il a trouvé des gens qui préféraient avoir 50% de quelque chose que sans de rien du tout. Moi, je veux pas. Je veux avoir la reconnaissance de ce que j'ai fait. Voilà. Mais je me suis dit, je sais pas si j'ai été bien de parler de ça. Non, c'est pas bien. Non, j'aurais peut-être.
Il y a beaucoup d'artistes qui ont recours à d'autres gens.
Oui, bien sûr. Oui, non. Enfin bon. J'étais un mélodiste. Il avait des idées de mélodie, mais bon.
C'est quoi alors le souvenir le plus fort pour vous?
Ah bah, j'en ai beaucoup, parce que oui, je faisais le galudon des artistes avec Danny Kay, et à l'époque je fumais, j'ai arrêté de fumer il y a très longtemps, mais je fumais des Hickey Strike, et moi je suis toujours en haut du podium, je suis en hauteur, le percussionniste est en hauteur, et je suis le dernier, puis au moment où je descends, il n'y a personne derrière moi, et monte un groupe de personnes, 3-4 personnes, bon, et puis il n'y a plus que moi, il s'approche de moi, et bon, monsieur au milieu qui me dit, you've got a cigarette please man, alors il me demande une cigarette, je lui offre une cigarette, c'était Marlon Brando. Alors, c'est anecdotique pour moi, mais c'est vrai que penser qu'un jour je ferais une cigarette à Marlon Brando, c'était drôle, quoi. Bon, voilà, c'est un souvenir comme ça. Puis je vous dis, avec Jacques Brel, j'ai enregistré Ne me quitte pas tout seul avec lui, parce que quand il était chez Philips et qu'il avait terminé son contrat, il avait signé chez Barclay. Il fallait qu'il enregistre à nouveau Ne me quitte pas. Et il avait fait une version, c'était à l'époque de My Way, qui était chantée par Nina Simone avec les bongos. Et ça lui avait plu, donc j'avais eu la chance d'être avec lui, sur une version comme ça. Malheureusement, Elle n'a pas été prise, mais je peux vous dire que trois fois jouer avec lui tout seul en face, et j'avais quand même j'avais les bras comme ça, hein. j'avais les poils assez tendus. Et quand on a enregistré le dernier album auquel j'avais participé, mais il était en chimio, il était en fin de, et je lui avais dit, écoute Jacques, j'aimerais bien pour moi si tu pouvais me donner le bobino, quoi, là, machin. Il m'a dit, je vais un peu m'en occuper, mais bon, il avait d'autres chats à fouetter, je l'ai pas eu, quoi. C'est dommage, c'était pour moi, quoi. Puis avec aussi Léo Ferré, quand j'ai fait l'opéra comique avec lui, c'était bien. Hein. Ouais. Ce jour-là, il y avait Joseph Poli qui était la star de TF1 comme aujourd'hui, et de Laousse, etc. Et il était venu interroger donc notre ami Léo Ferré juste avant le concert à 8h. On attaquait à 8h30. Et juste à ce moment-là, il y avait notre ami Jean-Saul Louvel, Yves Montand, qui avait fait une espèce de frasque dont il avait l'habitude. Et donc Joseph Poli pose la question à Léo, moi j'étais à côté. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a fait Yves Montand? Et là, Léo Ferré, il est 8h. Hein. Il fait Montand. Pendant 2 ou 3 minutes, quoi. Il a dit que ça. José Poli, en direct à la télé. Vous vous rendez compte, vous faites une émission en direct et vous avez un mec qui vous dit ça en face. Ça, c'est un souvenir. J'étais mort de rire. Après, il était mort de rire, quoi. J'aimais beaucoup aussi. C'est un homme que j'ai connu vraiment très étroitement. Malheureusement, à l'époque, j'étais un peu. Aujourd'hui, je pense que j'aurais pas les mêmes discussions, mais après tout, c'est ce qui lui plaisait, ma jeunesse, ma candeur, quoi. Voilà, c'était. Et là, j'étais habillé sur scène avec des chaussures comme ça, en 72, 71. À l'opéra comique, j'avais un nœud papillon, j'étais torse nu. C'est n'importe quoi. Voilà, c'était un souvenir. Voilà.
Et vous travaillez sur quel projet en ce moment?
Sur quel projet je travaille? Bien, là, on est sur un projet, puisque j'avais participé à l'enregistrement de Notre-Dame de Paris avec une équipe. Ça fait 20 ans que ça dure maintenant, quoi. Alors quand on enregistrait ça, je disais, mais il y a des producteurs qui ont mis de l'argent là-dessus, je comprenais pas. Et puis ça a été un carton. Bon, enfin, j'ai joué dans le monde entier. Et là, on est sur un projet, une comédie musicale avec des copains, des choses comme ça. Puis j'ai des projets aussi avec Bruno Coulet. On doit aller à Nice faire des choses comme ça.
Qui a travaillé sur les choristes.
Qui a travaillé sur les choristes, oui. Moi, j'avais fait notamment avec lui Microcosmos, quoi. Voilà. Vous savez, quand vous avez des gens avec qui vous avez l'habitude d'aller, là, dernièrement, j'ai participé aussi, là, il a écrit la musique du dernier film de James Hutt. Donc, James était là, et donc j'ai joué, et Bruno, en fait, il me fait écouter, puis il a pas trop besoin de me dire, il me fait confiance, et puis, voilà, quoi, si on a des automatismes. Mais ça veut pas dire que si c'est un autre musicien, ça sera pas bien, ça sera différent. Voilà, vous savez, il y a plein de gens qui sont indispensables, qui sont dans les cimetières, hein, et la terre tourne quand même.
Merci Marc Chantreau.
Merci, ma chère Margot, de m'avoir interrogé. Au revoir.
Merci à Marc Chantreau, invité de Backstage, un podcast monté et mixé par le guitariste de cette émission, Thomas Langlin.